Vous écoutez, on lit pour vous.
On appelle ça le progrès. Un texte de José Blanchette, paru le 31 janvier 2025 dans Le Devoir. Nous les avons applaudis, admirés, épiés. Nous les avons imités surtout, même des copies en toc, en glam ou en stuc, peu importe. Nous le voulions même, en moins cher. Le même train de vie, des comètes dorées qui donnent à l'ego toute son enflure, sa voilure. À défaut d'être riche, on pouvait au moins boire des martinis et plastronner en smoking loué au casino. Nous avons joué le jeu en ignorant que nous serions perdants en partant. Le 1% du bling-bling, ce sont 77 millions d'individus, techno-milliardaires, millionnaires ou qui gagnent plus que 140 000 $ américains par an, nous rappelait Oxfam récemment. Ils viennent à bout de leur budget carbone en 10 jours, soit le 10 janvier. Pour limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius, les 1% les plus riches doivent réduire leurs émissions de 97% d'ici 2030. J'ai fait le calcul. Pour la population québécoise en général, c'est une réduction de 80% qui serait souhaitable afin d'atteindre ses cibles de carbone. Oubliez ça. On se contentera d'un héroïsme à notre mesure. Quittez Netflix pour Crave. À la faveur d'une panne d'électricité, j'ai relu la réédition de « Comment les riches détruisent la planète » à la chandelle cette semaine. Bonsoir l'ambiance. À l'avant-garde, l'auteur et journaliste Hervé Kampf avait déjà tout pigé en 2007. Son best-seller a été traduit en 12 langues. Exagéré quelques prédictions à la hausse et Kampf avait tout bon. Les riches nous font courir vers notre perte, tant sur le plan politique que sur le plan économique et écologique. L'ex-journaliste français au journal Le Monde, qu'il a quitté pour protester contre la censure, a fondé Reporter en 2007 aussi. Ce média web indépendant sur l'écologie, un ovni en soi dans le monde médiatique, emploie 21 journalistes permanents maintenant afin d'informer sur les liens entre la crise écologique, les injustices sociales et les menaces sur les libertés. Et les menaces, ce sont les plutocrates ou pollutocrates de la broligarchie qui achètent le pouvoir. Comme le mentionnait déjà en 2014 le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz dans Politico, nous sommes passés d'une personne égale un vote à un dollar égale un vote. Comment les riches ravagent la planète? Dans sa nouvelle BD parue récemment au Québec, Comment les riches ravagent la planète, Hervé Kampf remet le couvert, mais avec des données récentes. Le constat n'en est que plus accablant. Son livre, coécrit avec l'excellent dessinateur Juan Mendes, nous démontre que le capitalisme tire à sa fin et que les riches nous coulent mondialement. Dans chaque pays, les gens imitent le mode de vie de l'oligarchie locale, qui elle-même prend pour modèle l'oligarchie des pays opulents et du plus riche, les États-Unis. Et comme la richesse matérielle n'a jamais été aussi grande, le gaspillage est maximal, écrit-il. Car il ne suffit pas d'être riche, mais il faut surtout faire envie et pratiquer la rivalité ostentatoire en imitant la classe sociale qui nous devance d'un échelon. En entrevue visio à Paris avec Hervé Kampf, j'ai voulu savoir comment ce journaliste voué à l'écologie depuis 1988 faisait pour tenir le coup avec le sourire devant l'apocalypse annoncée. À 67 ans, Kampf semble encouragé par ce qui se dessine. Rien de moins que la fin du capitalisme à ses yeux. Sa BD propose même à la toute fin un acte de sabotage sur la propriété privée, en toute illégalité, mais sécuritairement. Quand quelqu'un roule en grosse voiture ou prend l'avion, il atteint le bien commun d'autrui. La propriété privée n'est pas sacrée, ce ne l'est plus. Ce qui est sacré, c'est l'état de la biosphère. Il faut réintroduire l'idée du bien commun, souligne Kampf devant mon étonnement. on n'a qu'à lire l'essai « La société de provocation sur l'obscénité des riches » de la sociologue Dalia Namian pour s'en convaincre. « Kampf avait déjà tout vu venir il y a 15 ans », m'écrit-elle, en ajoutant « Trump et Musk, c'est peut-être le stade suprême de la société de provocation ». De fait, le nerf de la guerre portera sur les inégalités. Il faut réduire les inégalités. On est foutu si on n'y arrive pas, soutient Hervé Kampf. Et les réduire consisterait à stopper l'évasion dans les paradis fiscaux et à taxer les riches à hauteur de leurs revenus astronomiques. Même s'ils perdaient 99 % de leur fortune, les 10 hommes les plus riches de la planète, dont certains supporters de Trump, resteraient milliardaires. Mais ce n'est pas suffisant pour péter plus haut que la stratosphère. Les quatre cavaliers de l'Apocalypse. Kampf en est persuadé. Nous assistons à la fin d'un cycle. On ne peut pas laisser la planète aux milliardaires. Nous sommes dans un moment historique, la phase de déliquescence du capitalisme qui devient violent et brutal. Celui-ci a abandonné son idéal démocratique des Lumières. L'oligarchie refusant de remettre en cause un système qui l'avantage, des chocs sociaux s'annoncent, et nous le percevons déjà. Dans sa BD, Kampf cite l'historien Walter Scheidel, Une histoire des inégalités de l'âge de pierre au 21e siècle, sur la fin des inégalités. Les quatre grands réducteurs en seraient la guerre, la révolution, les pandémies ou l'effondrement des structures de l'État. Scheidel les surnomme les quatre cavaliers de l'Apocalypse et estime que le changement climatique et ses répercussions pourraient remplir ces quatre rôles qui fourniraient pas mal de scénarios à Hollywood dans les prochaines décennies. D'ailleurs, l'horloge de l'Apocalypse a été avancée d'une seconde récemment. Nous sommes à 89 secondes de minuit. Ajustez vos Rolex. En viendrons-nous à plafonner la richesse, atténuer la compétition néfaste et les écarts de salaire indécents? En viendrons-nous, comme l'espère Kampf, à construire un post-capitalisme fondé sur la coopération, le respect du bien commun et l'humanité? En attendant, on peut bien substituer le jus de pomme au jus d'orange, mais si les révolutions se gagnaient avec une paille, ça se saurait. Il faudra peut-être avoir très soif, soif de justice et d'avenir. Découvert, en relisant l'excellent essai, réédité chez Point, « Comment les riches détruisent la planète » d'Hervé Kampf, qu'Alexis de Tocqueville, politicien et philosophe du 19e siècle, avait tout vu venir dans « De la démocratie en Amérique, 1835 », en imaginant le futur. L'espèce d'oppression dont les peuples démocratiques sont menacés ne ressemblera à rien de ce qui l'a précédé. Aimé, la BD plutôt humoristique d'Hervé Kampf et de Juan Mendes, « Comment les riches ravagent la planète et comment les en empêcher ». À ce chapitre, les solutions demeurent quasi poétiques, car elles exigent non seulement un changement de mentalité, mais un bouleversement radical des modes de vie que nous ne sommes visiblement pas capables de nous infliger, notamment en portant des partis écologistes au pouvoir. Savourez le texte d'autodéfense « How to Survive the Broligarchy, 20 Lessons for the Post-Truth World » de Carol Cadwallader dans « The Guardian » en anglais. 20e leçon. They are not gods. Tech billionaires are over-entitled nerds with the extraordinary historical luck of being born at the exact right moment in history. Treat them accordingly. Joe Blog, pas si beige. On nous incite à abandonner Netflix et à encourager les arts vivants. Je me suis amusé en allant voir le show beige au théâtre La Licorne. Ces scénettes bien campées dans notre époque manient un humour caustique et nous montrent des millénarios angoissés non seulement par le futur, mais aussi par leur présent servi en cornet, parfum orange sanguine et sauce soya. J'aime pas la crème glacée qui vit au-dessus de ses moyens intellectuels. Un texte vif signé Camille Giguère-Côté, publié chez Atelier 10. Bref, ça vaut le détour. Supplémentaire jusqu'au 5 mars. C'était « On appelle ça le progrès ». Un texte de José Blanchette, paru le 31 janvier 2025 dans Le Devoir.
Le projet Immersion, 5 ans plus tard, un texte de Amélie Pineda, paru le 25 janvier 2025 dans Le Devoir. En 2019, naissait au service de police de l'agglomération de Longueuil le projet Immersion, dont l'objectif est de plonger des policiers pendant 5 semaines dans le quotidien de communautés défavorisées ou marginalisées. Le Devoir fait le point sur cette approche avant-gardiste avec ceux qui l'ont lancé et ceux qui l'ont vécu. Envoyer une 30aine de policiers pendant 5 semaines, sans uniforme et sans armes, dans des banques alimentaires, des ressources pour sans-abri et des organismes pour nouveaux arrivants, était un pari risqué lorsque l'ancien chef du service de police de l'agglomération de Longueuil, SPAL, Fadi Daguerre, a exposé le projet Immersion à ses troupes en décembre 2019. 5 ans plus tard, Le Devoir revient sur l'expérience de policiers ayant participé à ce stage avant-gardiste qui a depuis été implanté dans d'autres corps de police au Québec. La première fois qu'on a présenté le projet, tout le monde a ri, se souvient Fadi Daguerre, aujourd'hui directeur du service de police de la Ville de Montréal, SPVM. Convaincre des policiers d'expérience de quitter l'action du quotidien pour faire une incursion dans des milieux communautaires, se consacrant à la santé mentale, aux immigrants, à la pauvreté ou à l'itinérance, a même mené M. Daguerre à tomber lui-même dans le piège des idées préconçues. Je me suis dit que ça marcherait, mais que ce seraient probablement des femmes et des recrues qui poseraient leur candidature, confie-t-il. La composition de la première cohorte le ramène rapidement à l'ordre. Sur les 30 participants, on avait 16 ou 17 hommes et la moyenne d'ancienneté du groupe était de 16 ans au sein de la police, raconte-t-il. Depuis, 133 policiers du SPAL ont participé au projet Immersion. De ce nombre, 74 sont des patrouilleurs appelés à interagir quotidiennement dans des situations de crise. La 6e cohorte commencera le programme à l'automne 2025. Bâtir des relations de confiance. Implanter un tel programme ne s'est pas fait sans heurts. Ça a été possible parce qu'on est vraiment transparent, mais la transparence, ça peut faire mal, parce que ça vient avec l'honnêteté, souligne Gabriella Coman, sociologue, anthropologue et conseillère au SPAL, qui a participé à la création du projet Immersion. Sans grande surprise, c'est la question du désarmement qui a le plus braqué les policiers. Pour moi, c'était « no way » qu'un policier garde son arme, mais je leur ai dit « OK, allons en parler avec les partenaires et les intervenants. » Quand on s'est tous réunis et que la question du port de l'arme de service a été posée, il y en a qui se sont effondrés en larmes en disant « Ce n'est pas possible, ça ne va jamais marcher. » Il y a des gens qui ont vécu la guerre, des femmes qui ont été violées par des policiers dans leur pays d'origine. Ça a été un moment crucial, raconte Madame Coman. C'est que, pendant le stage immersion, les policiers passent parfois 1 ou 2 journées dans des organismes pour mieux comprendre le quotidien d'intervenants, de proches et de personnes vivant divers problèmes sociaux. Parmi ces organismes, il y a la Maison Tremplin, qui offre des services aux familles du vieux Longueuil et qui n'a pas hésité à ouvrir ses portes aux policiers. Les policiers arrivent ici un peu comme des stagiaires, raconte Nathalie Bonin, directrice adjointe de cet organisme établi en 1988. Y passer du temps de qualité en dehors des situations d'urgence permet aux policiers de tisser des liens de confiance avec les gens et de mieux comprendre le quotidien, un peu foufou, des employés des organismes d'aide, estime Mme Bonin. On est une ressource communautaire familiale, à laquelle s'ajoute un service alimentaire et une friperie. On n'a donc pas seulement des familles, mais aussi des aînés, des nouveaux arrivants, des gens seuls dont on permet de briser l'isolement. Durant leur stage, les policiers donnent un coup de main autant à la préparation des repas qu'à la friperie ou dans des ateliers. Ça leur permet de côtoyer des bénévoles, des citoyens et des personnes avec plein de particularités, que ce soit au niveau physique, au niveau de la santé mentale, des nouveaux arrivants et des jeunes qui viennent via des programmes de justice réparatrice, explique-t-elle. Un modèle repris ailleurs. Le modèle de Longueuil a été repris par les corps de police de Sherbrooke et de Montréal. Et d'autres services de police ont mis en place des projets hybrides qui s'en inspirent. Si je peux résumer immersion, c'est apprendre à se connaître pour mieux se comprendre, lance Pierre Marchand, directeur du service de police de Sherbrooke, SPS. Son défi n'est pas tant de convaincre ces policiers de participer à immersion que d'inclure les coûts d'une telle expérience à son budget. En 2023-2024, le SPS a bénéficié d'une aide gouvernementale pour les deux cohortes qui ont participé au stage. Le directeur explique que sortir 20 agents des opérations courantes pendant 5 semaines entraîne des coûts élevés. Malheureusement, avec toutes les préoccupations budgétaires, je n'arrive pas à le mettre dans mon budget de fonctionnement, explique M. Marchand, qui assure que le programme n'est pas abandonné. Je ne veux pas le mettre de côté. Avec immersion, on a vraiment ouvert quelque chose d'attrayant, autant pour les policiers que pour les citoyens. On regarde différentes options. Ça sera peut-être de libérer les policiers une semaine à la fois, ou peut-être de le faire avec les nouvelles recrues, comme c'est le cas à Montréal, dit M. Marchand, qui espère quand même former une cohorte en 2025. En effet, à Montréal, ce seront bientôt 455 recrues du SPVM qui auront participé au programme Immersion. Lorsque Fadi Daguerre est arrivé à la direction du SPVM en 2022, il a dû composer avec le fort taux d'absentéisme qui affecte le corps policier. Je ne pouvais pas retirer des policiers actifs qui étaient déjà en temps supplémentaire systémique pour aller faire immersion, explique Fadi Daguerre. La seule possibilité que j'avais, c'était les recrues qui n'étaient pas encore en fonction. Un mal pour un bien, aux yeux du directeur. En faisant vivre l'expérience aux recrues avant même qu'elles n'entrent en poste, il s'assure qu'à moyen terme, tous les patrouilleurs du service seront passés par immersion. À Longueuil, le projet Immersion qui a fait naître l'équipe Réseau, composé de policiers qui patrouillent à pied, est bien implanté. Franchement, ça m'a touché, dit Fadi Laguerre. Si aujourd'hui je devais prendre ma retraite, je serais déjà hyper satisfait de voir que ces projets-là, qui étaient des projets pilotes innovants, très très avant-gardistes, sont maintenant permanents. C'était le projet Immersion, 5 ans plus tard. Un texte de Amélie Pineda paru le 25 janvier 2025 dans Le Devoir.
Jeannette Bertrand, Mon petit-fils a 50 ans. Un texte de Jeannette Bertrand paru le 20 novembre 2024 dans Virage. À la veille de mes 100 ans, mon petit-fils, l'aîné de mes petits-enfants, celui à qui je chantais, c'est le petit Olivier à sa mamie, a eu 50 ans. Encore aujourd'hui, je m'en vante et m'en félicite. J'ai la chance d'avoir eu ma fille Dominique à 23 ans, qui, elle, a eu son fils Olivier à 26 ans. J'avais donc à peine 49 ans quand je suis devenue grand-mère pour la première fois. Non, ce bout de chou ne m'a pas fait vieillir prématurément. Il m'a plutôt fait revivre ma propre maternité et m'a peut-être aidé à vivre aussi longtemps. Ce gros et grand bébé, 10 livres, on ne rit pas, venait de sa mère et de son père, mais de moi aussi. Je sentais un lien très fort avec lui et j'ai compris Boucard Diouf qui, un jour, a comparé la famille à un arbre. Grâce à lui, je me suis toujours perçue comme un tronc d'arbre dont mes enfants sont les branches, mes petits-enfants et arrière-petits-enfants les feuilles. Olivier était la première feuille de ma première branche. Les femmes, quand leurs filles deviennent mères, n'en font qu'une avec elles, et c'est tout naturel. Ça s'appelle de l'empathie, l'art de se mettre à la place de l'autre. Aujourd'hui, avec le recul, je peux affirmer qu'à chaque nouvelle naissance, j'ai ressenti cette appartenance. Des liens en béton armé. Je reviens à Olivier, premier de la lignée. Je me suis exclamée sur sa blondeur, sur ses frisettes, mais surtout sur ses sourires, sa drôlerie, sa tendresse. Quand le soir je l'endormais en lui chantant une berceuse, j'étais reconnaissante à Dominique. C'est un cadeau à vie qu'elle me faisait. Merci. Avec le temps, on a tissé des liens, Olivier et moi, des liens en béton armé. On pourrait croire que le premier petit enfant a pris toute la place dans mon cœur. Eh bien, non. Charles est né et je suis tombée en amour avec cet autre bébé tout blond, tout doux, le charme incarné. Et puis les autres feuilles ont poussé et j'ai ressenti pour chacune d'elles un amour durable, inaltérable, total, intemporel. J'étais jeune et en forme, et je dois avouer que ceux nés plus tard ont eu une grand-mère et une arrière-grand-mère plus fatiguées, moins sorteuses, moins joueuses. Mais je garde toujours les enfants avec plaisir. Et quand je garde, c'est moi le boss. Je donne l'heure juste à l'enfant et aux parents. Ça rend le gardiennage simple et cool. Aujourd'hui, alors que j'ai 8 petits-enfants et 7 arrière-petits-enfants, on pourrait croire que les règles changeraient, mais non. Mon rôle est toujours bien clair. Ne pas les élever, juste les aimer. Merci Olivier, ma plus vieille feuille. Olivier, on a vécu ensemble de grands moments. Je me rappelle un certain Noël. Tu cherchais un cadeau pour ta blonde et tu m'avais demandé de t'aider. Nous étions dans un centre d'achat et soudain, tu m'as pris la main et on a marché tous les deux, main dans la main, comme quand tu étais tout petit. Un merveilleux souvenir pour moi. Et que dire de la fois où tu as pleuré dans mes bras alors qu'une rupture amoureuse t'avait déchiré le cœur? Je nous revois, tes 6 pieds 2, 200 livres, calés dans mon 5 pieds 3, 130 livres. Je n'ai pas dit un mot, j'étais là pour toi. Et ce 31 juillet 2024, à tes 50 ans, tu as souhaité, comme chaque année, célébrer ton anniversaire avec moi. Une chaleur à mon cœur. Merci Olivier, ma plus vieille feuille. Je sais que tu peux compter sur moi, et pas juste pour applaudir tes succès. Je sais que tes enfants sont aussi les miens. Après tout, on fait partie du même arbre. Un gros arbre aux branches solides et aux feuilles rutilantes. Un arbre fort. L'arbre inclusif. J'entends souvent des adultes, des hommes surtout, me parler de leur grand-mère avec amour et avec des remarques flatteuses. Elle ne me juge pas. Elle m'écoute quand je lui parle. Elle ne me chicane jamais. Je peux compter sur elle. Elle ne bavasse pas dans mon dos. Elle prend le temps de jouer avec moi. Elle me prend au sérieux. Et les grand-mères me confient. Il m'a redonné mon sens de l'émerveillement. Avec lui, j'ai retrouvé ma jeunesse. On rit, on s'exclame, on joue. Il me garde jeune. Je lui fais confiance. Guillain Lepage m'a un jour nommé à son émission « Tout le monde en parle » sa grand-mère de remplacement. Au début, j'ai trouvé étrange qu'un homme qui pourrait être mon fils veuille être mon petit-fils. Il est alors devenu dans mon cœur une feuille de mon arbre. Il existe entre nous ce lien, cette force indestructible, car une nouvelle feuille ne peut que renforcer l'arbre. Disons que j'ai l'arbre inclusif. Je me trouve chanceuse d'être grand-mère. Ça me procure tant de plaisir. Et si je vis si longtemps, c'est peut-être parce que mon arbre est fort de l'amour que l'on se porte tous, malgré les tempêtes. Soit dit en passant, Olivier vient de m'appeler pour me dire qu'il est un nouveau membre FADOC. Sans blague. La grande Jeannette, c'est mamie. Pour le Québec, Jeannette Bertrand est un monument. Pour Olivier, Jeannette est tout simplement mamie. Voici ce qu'il avait à nous raconter au sujet de sa célèbre grand-mère. Mamie a toujours eu énormément d'énergie. Quand on allait la voir à la campagne, on savait qu'on n'allait pas là pour relaxer. Nous serions appelés à réfléchir, à discuter, et ce, sur tous les sujets. Il n'y avait aucun tabou. On pouvait tout aussi bien parler de sexualité, de relations interpersonnelles, d'éducation, tout y passait. Adolescent, parfois étourdi par toutes ces discussions, il m'arrivait de me demander pourquoi je n'étais pas née en Éthiopie au milieu du désert, plutôt que dans cette famille extrêmement engagée et motivée. Mamie est une chef de clan. Elle a toujours eu comme préoccupation de garder notre grande famille unie, et ce désir a influencé la façon dont j'ai bâti mes propres relations avec les autres. Un de ses grands enseignements est de nous avoir montré comment on peut travailler sur ce qui nous unit au lieu de ce qui nous sépare. Notre relation a toujours été privilégiée, basée sur l'amour et le respect. Mamie, peu importe qu'elle soit la grande Jeannette, me demande parfois conseil et je la consulte aussi. Pour l'écriture de ses livres, elle me questionne souvent sur ma génération et se nourrit d'ailleurs de la vie de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Cet échange est très précieux. C'était Jeannette Bertrand, mon petit-fils à 50 ans, un texte de Jeannette Bertrand, paru le 20 novembre 2024 dans Virage.